La quarantaine n'a pas énormément de sens dans ce cas-là. Alors ça existe, c'est l'une des techniques qui est utilisée dans certains systèmes professionnels ou autres, où avant d'utiliser un nouveau logiciel, on va voir ce qu'il fait. Donc on va le laisser sur une machine de test, tout seul dans un coin, on va voir comment il s'exécute, s'il essaye de se connecter à distance ou des choses comme ça. Donc on le mettra effectivement dans une machine particulière pour ça. Mais sans ça, ça n'a pas beaucoup d'effet, la quarantaine d'un programme, parce que si vous n'utilisez pas le programme, il ne se passera rien. Si vous l'utilisez alors qu'il est infecté, peut-être qu'à ce moment-là, ça fera des choses, mais il va essayer de le cacher, et donc vous ne le verrez pas facilement s'il fait quelque chose de malveillant. Alors j'ai oublié de le dire, mais il y a d'autres outils, comme par exemple des observations sur le réseau, justement, qui permettent de lister toutes les connexions réseau que fait votre machine. Et à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question, pourquoi ce programme se connecte au réseau, alors qu'il n'a aucune raison. Je ne sais pas moi, à nouveau, l'affichage des photos de famille, pourquoi le programme qui affiche les photos de famille irait se connecter au réseau? Il n'y a pas de raison. Donc la connexion, on peut l'analyser pour voir si c'est normal ou si c'est pas normal. Est-ce que c'est pour juste vérifier s'il y a une mise à jour ou autre? Mais là, ça devient des outils professionnels parce qu'il faut l'analyser derrière. Collecter les informations, c'est facile. Analyser pourquoi il y a eu cette connexion, ça devient de plus en plus difficile. Et donc je ne vous le recommanderais pas en tant qu'utilisateur normal d'un système.
Une question ici, monsieur?
Oui, oui. Bonsoir. Ce que j'aimerais savoir, si est-ce que les virus et les vers s'attaquent à un logiciel parce que le logiciel a une faille? Donc est-ce qu'il rentre dans la faille pour justement...
Alors c'est soit le logiciel, soit l'utilisateur. Il y a les deux failles dans l'informatique. L'utilisateur humain souvent est une faille. C'est le cas de celui qui clique sur le message, le fichier attaché là, pour afficher le message qui est dans un mail et puis qui en fait exécute un programme malgré lui. Mais il y a aussi, et c'est un scandale, beaucoup de logiciels qui sont mal écrits. Et pas seulement chez Microsoft. Et donc dans lequel il y a des failles qui peuvent être exploitées à distance. Et donc si un attaquant veut pénétrer dans une machine, par exemple, pour y installer un verre, eh bien il va essayer de retrouver ses failles, de tester la machine à distance, pour repérer si cette faille que lui connaît et qui visiblement n'a pas été bouchée par l'utilisateur, elle est ouverte ou pas. Et donc là, on a la course toujours. Alors j'ai dit qu'il fallait mettre à jour les antivirus, mais il faut mettre à jour aussi vos systèmes et vos logiciels. On a parlé d'Acrobat. Apparemment, une nouvelle faille a été trouvée ces jours-ci dans Acrobat. Eh bien, il faut aller sur le site de Symantec pour mettre à jour Acrobat, parce que sans ça, votre système est vulnérable. Et donc, il y a encore des programmes, même professionnels comme chez Adobe, qui sont mal écrits, qui laissent des vulnérabilités. Pourquoi? Parce que les programmes sont très complexes. C'est des œuvres humaines, c'est beaucoup moins plus simple que la biologie, mais ça reste des choses tellement complexes qu'ils n'ont pas été conçus avec toutes les hypothèses qu'un attaquant pourrait essayer de passer à travers. Donc, il reste des failles.
Ce qu'on évoquait, ça a été signalé par le portail de la sécurité informatique le 29 avril sur Adobe et Acrobat. Voilà. Je crois que monsieur avait une question.
Oui. Moi, j'ai divisé sur mon ordinateur, j'ai trois disques durs. Et j'ai divisé en partition principale et logique. C'est-à-dire, par exemple, sur la partition principale, je charge les programmes et les données, je les mettrai donc sur des partitions logiques, de façon à éviter le mixage. Mmh. Et j'utilise VigWard comme antivirus, qui est une espèce de coffre-fort. Dès qu'il y a quelque chose qui veut rentrer dedans, il rejette. C'est le seul logiciel qui est stoppé, là, le fameux virus, là, I Love You. Et puis j'utilise également de Webroot, là, Spy Sweeper. Alors lui, c'est pour tout ce qui est... Ce sont les cookies, mm-hmm. qui met en quarantaine. C'est-à-dire que les cookies sont des espèces de petits programmes qui permettent de voir pour les sites internet comment l'ordinateur est utilisé.
Oui, les cookies, c'est quelque chose de très utile. C'est-à-dire, ça permet de stocker dans l'ordinateur de l'utilisateur la mémoire des actions qu'il a eues vis-à-vis des mêmes serveurs précédemment. Donc ça peut être utile. Ça vous évite de retaper les mêmes données.
Ça peut être utile, mais en même temps, ça peut être utilisé pour voir ce que vous faites sur votre ordinateur.
Alors, normalement, c'est si votre ordinateur est correctement protégé, il n'y a que le serveur sur lequel vous êtes connecté qui peut relire les informations qu'il a écrites chez vous dans ses cookies. Un autre site ne peut pas le faire. Donc en fait, vis-à-vis de ce serveur, ça n'est pas un danger supplémentaire. Il pourrait très bien, de toute façon, les garder chez lui, ces informations. Là, il les met chez vous, pour simplement, justement, ne pas avoir à les garder chez lui. Et donc, du point de vue de la protection de la vie privée, à nouveau, si la sécurité est bonne, c'est meilleur que ça soit chez vous plutôt que chez lui. Chez lui, vous ne savez pas ce qu'il en fait. Au moins, chez vous, vous pouvez les effacer et ça n'aura aucun effet.
Oui, mais les logiciels permettent, enfin, sur d'Internet, permettent de les effacer une fois que le programme s'arrête. Par exemple, avec Firefox.
Vous les effacez quand vous voulez. Hein.
Mais on peut le mettre en paramétrage automatique. Quoi.
Oui, vous pouvez les effacer. Chaque fois que vous déloguez, vous pouvez les effacer. Mais à nouveau, c'est pratique avec les cookies. Si vous allez sur un site météo, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de dire que vous préférez en degrés Celsius plutôt qu'en degrés Fahrenheit, en kilomètres heure la vitesse du vent plutôt qu'en... Et puis, que vous préférez la météo de Toulouse que celle de Pétaouchnok. Donc, éviter de rentrer toujours les mêmes informations, c'est pratique. C'est ce que font les cookies. Cookies en tant que tel, ce n'est pas vraiment un danger. Ça devient un danger lorsque, effectivement, un site est capable de lire les cookies d'un autre site. Donc, vous connectez sur un site, il y a un logiciel qui est capable d'aller, à cause d'une faille dans votre machine à vous, d'aller lire les utilisations que vous avez faites d'autres sites. Mais ça, c'est quand même assez rare.
Donc, c'est ce qui va se passer peut-être avec la police informatique pour appliquer la loi Hadopi ou pas ? Est-ce que c'est ce mécanisme-là ou pas ?
Non, c'est plutôt d'obliger à faire des logs de toutes les connexions qui sont faites, bon, ce qui sont déjà faits chez les fournisseurs d'accès, mais que vous les fassiez chez vous pour distinguer qui dans la maison a fait quelle connexion. Si vous avez une borne Wi-Fi, s'il y a des accès extérieurs qui ne sont pas de la famille à votre borne par votre voisin ou autre, qui peuvent faire toutes les bêtises, on dira que c'est chez vous. Donc si vous avez des traces de toutes ces connexions que vous gardez, vous pourrez les montrer à la police qui essayer de les convaincre que ce n'est pas vous qui faites du piratage, que c'est peut-être quelqu'un qui a un voisin.
Ça va être compliqué tout ça.
Voilà, c'est très compliqué et c'est probablement pas la bonne solution.
Ce sont les détournements d'adresse IP, ça. On affiche...
Oui, enfin, c'est plus que ça. Là, je parle d'aller se connecter sur une borne Wi-Fi de quelqu'un d'autre et de faire des accès malveillants sur le réseau. Alors, vous utiliserez l'adresse IP qui vous sera donnée pour cette borne Wi-Fi.
Merci, monsieur. Une question ici.
Les vaccins, c'est une mise à jour ?
Non, c'est pas vraiment une mise à jour. C'est que... Le système est fait pour détecter toute nouveauté, tout ce qu'il n'a pas appris au cours de son développement. C'est exactement le même système que celui dont tu parlais il y a peu. Et en fait, pendant le développement embryonnaire et pendant la mise en place du système immunitaire, le système immunitaire va analyser tous les composants de l'organisme, de tous ses propres composants, ce qu'on appelle le soi. Et c'est sur cette base-là qu'après, il va décider, ça c'est extérieur, ça c'est du soi. Avec le problème que de temps en temps, le système dérape et se met à reconnaître un composant du soi comme étranger. Et là, c'est toute la thématique des maladies auto-immunes qui sont extrêmement difficiles à soigner. En général, la seule manière de faire, c'est de calmer le système immunitaire, d'inhiber le système immunitaire. Parce qu'à partir du moment où il reconnaît un composant, quel qu'il soit, même si c'est du soi, il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter que vraiment de l'artillerie lourde et des choses très générales pour l'empêcher. Donc,
Mais le vaccin, c'est pas justement de lui injecter quelque chose qui ressemble à...
C'est pas une mise à jour.
Oui, mais
c'est
il va apprendre. Il
va apprendre. Voilà. Il va apprendre, mais le vaccin, c'est comme n'importe quelle infection. Mm-hmm. C'est pas une mise à jour dans la mesure où il aura toujours la même base de données, qui est ce qu'il a appris pendant la...
La mise à jour, ce serait un autre vaccin, quoi.
Non, la mise à jour, ce serait de parvenir à lui faire comprendre que quelque chose qu'on lui donne, alors qu'il a déjà sa base de données, lui faire accepter quelque chose d'étranger comme du soi. Ça, ce serait l'équivalent d'une mise à jour. Et ça, malheureusement, on n'y arrive pas, parce que ce serait merveilleux de pouvoir arriver à faire ça dans le cas des greffes, par exemple. C'est quoi le gros problème des greffes ? Ça marche très bien. La chirurgie a fait d'immenses progrès. On peut faire des greffes tout à fait remarquables actuellement. Et le grand problème des greffes pendant des années, c'est que vous savez que nous sommes incompatibles. C'est-à-dire que si je prends un organe de quelqu'un que je le greffe sur quelqu'un d'autre, le système immunitaire va reconnaître cet organe étranger comme étranger. Il va le détruire. Donc ce serait merveilleux de pouvoir faire une mise à jour et d'apprendre au système immunitaire à tolérer ce nouvel organe qui est quasiment identique à celui qu'il remplace, sauf que moléculairement, il est différencié et le système immunitaire reconnaît ses différences.
Monsieur, une question à vous.
Bonjour, alors j'aurais voulu savoir deux choses en fait. Là on a vu en fait qu'il y avait des modes de fonctionnement qui étaient assez similaires en fait entre les virus donc biologiques et informatiques. Et j'aurais voulu savoir si en fait c'était des points communs ou si on pouvait éventuellement envisager qu'il y avait de la part des hackers une certaine volonté en fait d'imiter fonctionnement des virus biologiques pour les adapter à l'informatique, et si de l'autre côté, en fait, il y avait en fait des collaborations entre, disons, les équipes de recherche en informatique et en biologie pour essayer de développer des moyens de lutter contre ces virus-là qui seraient également inspirés du biologique.
Ce que je peux en dire, c'est ce que j'ai un petit peu déjà dit. C'est-à-dire que je ne connais pas de virus, à part sur la philosophie générale du virus informatique, hein, mais de virus informatique qui était conçu basé sur des gènes ou de l'ADN humain ou biologique. Par contre, le seul exemple, donc, il y a vraiment une coopération entre des spécialistes de l'informatique et des spécialistes de l'immunologie, c'est ce que j'ai dit à propos de cette troisième technique de détection, qui est effectivement de la reconnaissance du soi. C'est les termes aussi qui ont été utilisés, c'est-à-dire d'apprendre tout ce qui est soi, c'est-à-dire tous les programmes normaux, tous les programmes qu'on a le droit d'exécuter et qui ont été appris à un moment où il n'y avait pas normalement de virus à ce moment-là. Et donc, cette base de signature d'exécution normale pourrait servir pour détecter quelque chose qui ne serait pas une exécution normale ou qui serait une exécution tellement rare. Le problème, c'est que ce n'est pas parfait à 100%. À nouveau, parce qu'il y a beaucoup de virus qui se comportent comme des programmes tout à fait normaux, vu de l'informatique, c'est-à-dire déjà enregistrés comme des séquences qui sont autorisées. Et il y a beaucoup de programmes qui, de temps en temps, font des choses tout à fait exceptionnelles, et donc ils n'ont pas été apprises comme une exécution normale, et donc on va détecter, alors que c'est des vrais programmes, bons. Donc il y a à la fois cette notion de fausse alarme et à l'inverse de non-détection qu'il faut essayer de gérer. Et donc ces techniques immunologiques qui ont été vraiment copiées sur la biologie, et c'est vraiment un laboratoire de l'Université du Nouveau-Mexique qui a lancé ça il y a déjà une quinzaine d'années. Et ça a eu, ça a été une petite révolution dans le monde de la sécurité informatique parce que c'était une idée vraiment nouvelle et qui a eu beaucoup de succès, je dirais momentanément. Aujourd'hui, on en est un peu revenu parce qu'il y a beaucoup de défauts quand même à cette technique.
Mais dans la terminologie, on reste sur le même registre.
Ils ont
registre,
basé ça sur vraiment. La reconnaissance du self en anglais. La reconnaissance de soi en français pour enregistrer toutes les fonctions normales de l'ordinateur comme étant des séquences, non pas d'ADN, mais d'appel système. Quelles sont les séquences d'appel système qui sont raisonnables? Et ils sont tombés sur un nombre magique qui était, il suffit de garder une séquence de 6 appels système pour reconnaître si c'est un fonctionnement normal ou anormal. Mais en fait, cette séquence magique de 6 était parfaitement artificielle et on aurait aussi bien pu prendre 7 ou 5. Ça n'aurait pas été ni beaucoup meilleur ni beaucoup pire.
Madame avait une question, s'il vous plaît.
Oui, moi j'avais une question sur les rétrovirus. Enfin voilà, moi j'aurais voulu avoir plus d'infos sur les rétrovirus. Et est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui de connaître bien le monde des virus, enfin, quand on est chercheur comme vous, quoi, est-ce qu'on les quantifie? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un truc complètement inconnu ou pas, quoi, voilà.
C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Moi, mon sentiment, c'est que nous sommes très loin d'avoir découvert tous les virus existants, sans aucun doute. Alors, les rétrovirus, évidemment, les rétrovirus, on en parle beaucoup parce que le VIH, évidemment, a attiré l'attention sur le monde des rétrovirus, qui est un monde qui, sur le plan thérapeutique, est un monde extraordinairement difficile à gérer. Et en même temps, l'épidémie de VIH a été tellement énorme, a fait tellement peur, qu'il y a eu au niveau mondial une action absolument exemplaire. Et en 20 ans, on a vu sortir des thérapies qui sont probablement actuellement de très loin les meilleures thérapies antivirales dont on dispose, qui marchent sur le VIH et sur rien d'autre, mais qui permettent de juguler, en tout cas si on parvenait à ce que tous les gens qui en ont besoin puissent avoir accès à cette thérapie qu'on appelle la trithérapie, puisque en fait c'est une combinaison de 3 molécules qui vont aller bloquer 3 étapes différentes du virus. On pourrait juguler tout à fait bien l'épidémie de VIH. Le problème, c'est que ce sont des molécules qui restent extraordinairement chères, qui ne sont donc accessibles que dans les sociétés développées et riches, et vous avez toute l'Afrique qui est tout de même en gros en train de mourir, enfin, pas toute l'Afrique, mais il y a un gros problème de sida en Afrique parce que ces populations n'ont pas accès à la trithérapie. Mais c'est là vraiment, il y a une action absolument exemplaire de la recherche des sociétés pharmaceutiques. Il y a eu la quantité d'argent qui a été investie dans la recherche à ce niveau-là, et je pense sans précédent dans la recherche virologique. Et ça a marché, parce qu'en très peu d'années, on est arrivé à des solutions tout à fait satisfaisantes. Avec l'inconvénient aussi que, particulièrement dans nos sociétés riches, on voit une recrudescence du sida, parce que les gens se disent, il y a la trithérapie, c'est fini, on fait ce qu'on veut. Mais ça, c'est une erreur, parce que la trithérapie, ça marche très très bien. Mais il y a quand même des effets secondaires, il y a des problèmes. Il ne faut pas croire que la trithérapie, ça va résoudre totalement le problème. Ça permet de juguler l'infection. Il ne faut pas oublier qu'un rétrovirus, par définition, c'est un virus dont l'information est une information ARN, qui va être copiée sous forme d'une information ADN double brin. Et cette information ADN double brin, elle va s'insérer, elle va rentrer dans votre information génétique, enfin dans l'information de la personne infectée. Ce qui veut dire que on ne se débarrasse jamais d'un rétrovirus. Il reste là. Et donc la trithérapie contrôle parfaitement l'infection. Le jour où vous arrêtez la trithérapie, il y a toutes les chances de voir repartir l'infection parce que vous aurez toujours l'information. Enfin, vous, pardon, la personne infectée aura toujours l'information dans ses cellules. Mais en même temps, ça prouve qu'avec la volonté, avec les moyens, on peut faire des choses. Et au départ, vraiment, ce n'était pas gagné parce que les rétrovirus, justement, étaient des virus qui faisaient un petit peu peur au monde virologique parce que c'était quasiment les premiers virus qui étaient associés de manière évidente à un certain nombre de transformations tumorales, particulièrement chez la souris. On avait une série de rétrovirus qui étaient responsables de leucémie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens se sont intéressés à l'époque à ces rétrovirus. Jusqu'au moment, d'ailleurs, et c'était très, très amusant, entre guillemets, et symptomatique des modes en biologie, c'est que les gens se sont passionnés pour les rétrovirus tant qu'ils ont cru qu'on aurait des équivalents chez l'homme. Et en fait, les rétrovirus de souris qui provoquaient des leucémies, on n'en connaît pas d'équivalent chez l'homme. Et donc, il y a beaucoup de laboratoires qui ont arrêté de faire de la recherche sur les rétrovirus. Et pas de chance, quelques années après, on a vu sortir un autre rétrovirus, qui est un lentivirus, qui est le virus VIH. Mais déjà, beaucoup de labos avaient changé de thématique. Donc cette pression de mettre de l'argent uniquement sur les trucs qui sont à la mode, c'est aussi extrêmement dangereux. Un autre inconvénient de ça, par exemple, il y a un grand groupe de virus qui sont ce qu'on appelle les coronavirus, qui ont intéressé beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont travaillé sur les coronavirus jusqu'au moment où, pareil, pour un même phénomène de mode, cette recherche n'a plus été financée parce qu'il n'y avait pas de grande pathologie, parce que beaucoup de laboratoires ont abandonné les coronavirus. Et pas de chance, 5 ans après, on a vu sortir l'épidémie de SRAS, qui est un coronavirus. Et il n'y avait plus de gens qui étaient capables de véritablement initier une recherche de novo sur ces virus.
Est-ce que c'est ce qui va arriver avec la grippe? Puisque là, on fait tout
un tour de la grippe. Non, la grippe, c'est un problème récurrent. Donc, il y a de gros laboratoires, il y a de grosses structures. La société est organisée vraiment pour prendre en charge la grippe. Donc, c'est actuellement, si vous voulez de l'argent en virologie, la grippe, c'est un bon coup. Voilà. C'est vraiment une bonne thématique.
Voilà. Oui, visiblement. Oui.
Pour les virus, il y a deux grandes thématiques actuelles. Non, il y a trois grandes thématiques. C'est le VIH, c'est le sida, c'est la grippe, et c'est les hépatites, notamment l'hépatite C.
Madame. Oui, bien sûr.
Non, pas du tout. C'est un virus à ADN.
Un vaccin pour le traiter chez les jeunes filles.
Oui, tout à fait. Mais disons que c'est pas tellement l'efficacité du vaccin, malheureusement, je pense qu'il ne dépend pas énormément de nous. Il dépend du virus. Et il y a des virus pour lesquels la vaccination marche extrêmement bien. Et il faut rappeler tout de même là le grand succès qui est aussi un succès absolument exemplaire, qui est l'éradication de la variole. Parce qu'on nous parle de la grippe, là, il y a encore peu de gens qui ont parlé de la grippe, je m'attendais à ce que ce soit quand même un des grands thèmes de la soirée, mais la grippe dont on nous parle actuellement, enfin, moi personnellement, elle me fait sourire, c'est totalement ridicule, c'est tout simplement ridicule ce qu'on nous raconte sur la grippe actuellement. Là, on s'excite parce qu'il y a 10 cas avérés en France, 10 cas avérés, il n'y a même pas de mortalité pour le moment, il y a 10 cas avérés.
Même pas, je crois qu'il y en a 7.
J'ai entendu 10 ce soir. Parce que ça varie d'heure en heure. Oui. On est tenu au courant d'heure en heure.
Le point en France était 5 tout à l'heure à 15h. L'OMS qui signalait. Alors c'est l'OMS, hein, c'est pas le gouvernement. Ah. Donc c'est plus autant fiable d'après ce que j'ai lu. La France 5 cas, la Grande-Bretagne 28, l'Espagne 73, Canada 201, USA 642, Mexique 42 mortels.
Mais ça ne m'empêche pas de sourire.
Bien
ça
sûr.
M'empêche pas
oui.
de sourire.
Et au total, 2099 cas de grippe dans 23 pays, à 15h, hein, le point de l'OMS.
Ce qu'on oublie de dire, c'est que la grippe saisonnière normale, celle qui touche des tas de gens tous les ans, c'est 3000 morts par an en France. C'est 35 000 décès par an aux États-Unis. Je veux dire, je ne comprends pas bien le battage qui est fait autour de cette grippe-là. Je comprends que ça préoccupe les gens de l'OMS. Ça, c'est tout à fait normal, c'est leur boulot. Et c'est vrai que ce virus a quelques caractéristiques particulières. Mais je veux dire, au niveau de la population, de vous et moi, vraiment, ça ne change strictement rien.
Donc l'achat de masques qu'on voit tous les jours, vraiment, c'est stupide.
Je pense qu'à part enrichir certaines sociétés, ça ne va pas changer grand-chose. Bon, enfin, je voulais revenir sur la vaccination. Et moi, ce qui me semble tout à fait exemplaire, c'est l'éradication de la variole. La variole a été le virus qui a tué le plus dans le monde. On estime que le bilan de la variole, depuis qu'on recense, qu'on a essayé de recenser à peu près les cas, on estime que la variole, c'est 150 millions de morts. Ce n'est pas 10 cas de grippe non mortels, c'est 150 millions de morts dans le monde. C'est tout à fait autre chose. Et ce virus-là, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien actuellement, eh bien, on est parvenu à faire un vaccin extraordinairement efficace contre la variole. Et grâce à ça, et grâce à, encore une fois, une grosse mise de fonds de l'OMS, on a pu décréter un programme de vaccination à l'échelle mondiale et on a éradiqué la variole. De sorte qu'actuellement, les seules souches de variole, probablement, parce qu'il faut quand même être très prudent quand on parle de ces choses-là, mais les seules souches qui existent encore dans le monde, ce sont probablement les stocks de variole qui se trouvent actuellement dans des congélateurs en Russie et dans quelques congélateurs aux États-Unis, parce que la variole était envisagée tout à fait sérieusement comme une arme biologique. Et c'est quasiment un des seuls virus qui soit crédible comme arme biologique, parce que ça va très vite, c'est un taux de mortalité effroyable. Et à l'époque où il n'y avait pas de vaccin, c'était l'arme évidente. Sauf qu'il pouvait toujours vous revenir dans la tronche, parce que, encore une fois, ce genre de choses, c'est pas évident à manipuler.
Monsieur avait une question.
Pourquoi un virus rend-il malade? Et d'ailleurs, est-ce que tous les virus rendent malade? Alors, est-ce qu'on est malade à la cause d'un virus, c'est un effet, entre guillemets, collatéral? Ou est-ce que c'est pour le virus le moyen de se développer, le fait qu'on soit infecté, malade, etc., qu'on meurt d'ailleurs?
Mais il y a différentes raisons pour lesquelles on peut être malade. La première raison, la plus courante, c'est parce que le virus lui-même, au moment où il va se répliquer massivement, fabriquer un paquet de nouveaux virus, il va tuer simplement la cellule qui le produit. Et donc, quand ça se produit dans un grand nombre de cellules d'un organe, par exemple, cet organe va évidemment souffrir énormément. Si la souffrance est très forte, l'organe peut disparaître, entraînant la mort de l'individu. Une deuxième cause pour laquelle on peut être malade, c'est que le virus lui-même va faire un peu de dégâts, mais qui serait à la limite relativement supportable, mais c'est que votre système immunitaire, lui, va aller attaquer toutes les cellules dans lesquelles il va reconnaître le virus, et c'est le système immunitaire lui-même qui va faire les dégâts, et qui en même temps sont à peu près inévitables dans la mesure où c'est aussi à peu près la seule manière, à partir d'un certain stade, de lutter contre le virus. Donc il y a ces deux aspects. Maintenant, il y a des virus qui ne provoquent pas de pathologies ou très rarement des pathologies. Moi, quand je vous disais que je ne suis pas spécialiste de l'ensemble des virus, je travaille sur un virus, qui est un virus dont vous êtes probablement à peu près tous infectés dans cette salle, qui est le virus d'Epstein-Barr, qui n'est pourtant pas un petit virus de rien du tout, c'est une très grosse machine. C'est un virus dont le génome, là je vous ai parlé des plus gros virus que les mimivirus, mais le virus sur lequel je travaille, c'est quand même un virus dont le génome fait à peu près 180 000 paires de bases, donc c'est déjà une grosse information génétique. Et chez la plupart des gens, l'infection par ce virus ne provoque même aucun symptôme. La primo-infection passe totalement inaperçue. Et quand il y a des symptômes cliniques, c'est une mononucléose infectieuse, et mononucléose infectieuse qui est une infection le plus souvent qui va se résoudre spontanément. Enfin, ce qu'on imagine maintenant, c'est que dans la mononucléose infectieuse, le système immunitaire des gens qui vont faire une mononucléose infectieuse va réagir un petit peu moins vite contre le virus et va le contrôler moins rapidement. En gros, bon, c'est une manière très grossière de voir les choses, mais en gros, c'est ça. Et puis, dans certaines parties du monde, certains pays, ce même virus, qui chez nous ne pose pas de problème majeur, va être associé à un certain nombre de tumeurs. Et par exemple, le virus d'Epstein-Barr en Afrique noire va provoquer un lymphome gravissime, qui est le lymphome de Burkitt, qui dans le sud de la Chine ou au Maghreb va provoquer une tumeur, même d'autres types de cellules, qui sont les carcinomes du nasopharynx. Et là, on ne comprend absolument pas pourquoi, chez certains individus, ce même virus va provoquer des choses tout à fait gravissimes. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on aimerait bien comprendre.
Monsieur.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a un vaccin pour l'hépatite B et pas pour la C, la D, etc. Et où en est la recherche au niveau de la guérison de l'hépatite C?
C'était la suite, en fait, de ce que je voulais dire. C'est que je pense que l'efficacité, ou en tout cas notre capacité à développer un vaccin, ça dépend vraiment du virus. Et pour le moment, on ne sait pas pourquoi on arrive à faire une vaccination contre certains virus et pas contre d'autres. J'aurais tendance à dire d'une manière très générale qu'un virus qui va faire une infection, ce qu'on appelle une infection aiguë, c'est-à-dire qu'il va avoir une phase pendant laquelle ce virus va se développer très fort, éventuellement être extrêmement pathogène, et puis va être contrôlé par le système immunitaire, et que dans la biologie de ce virus, le système immunitaire va parvenir à éliminer totalement le virus, j'aurais tendance à penser que contre ces virus-là, on arrive à faire des vaccins qui marchent relativement bien. Dans tous les cas, à ma connaissance, où on a des virus dont les stratégies, au contraire, consistent à s'implanter durablement dans l'organisme, c'est le cas des rétrovirus. C'est le cas du virus dont je viens de vous parler, du virus Epstein-Barr. J'ai le sentiment, mais c'est un sentiment très général, ça ne, c'est pas quelque chose de démontré, j'ai le sentiment que pour ces virus-là, on n'arrive pas à développer de vaccin. Probablement parce que justement la stratégie de ces virus est de passer à travers le système immunitaire. Alors que les autres, ceux qui font une infection fulgurante, en fait ils gagnent, ils perdent dans l'individu, mais ils gagnent dans la mesure où ils se répliquent suffisamment vite que pour pouvoir se répandre à d'autres individus avant que le système immunitaire du premier individu infecté les neutralise. Donc les stratégies finalement de ces virus sont totalement différentes. Et je pense que lorsqu'on a une infection fulgurante, très aiguë, on peut faire un vaccin. Lorsque, au contraire, la stratégie du virus, c'est le long terme, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, depuis tout à l'heure, on examine le côté obscur des virus, j'allais dire, mais il y a forcément un côté plus positif, visiblement, dans les deux domaines. Est-ce qu'on commence par Yves, donc?
Excusez-moi, donc, je voulais...
Ah, oui. On reviendra peut-être tout à l'heure, on va continuer, excusez-moi, et puis on revient sur les questions, si vous souhaitez, tout de suite après.
Enfin, c'était très court.
Très vite.
Allez, très vite alors. Oui.
Ah bon. Oui, il y a 20 ou 30 ans, on disait que la tuberculose était complètement éradiquée, que ça n'existait plus, et maintenant la tuberculose revient. Est-ce qu'il y a une explication?
Merci.
Oui, il y a une explication qui est relativement simple. C'est d'abord, la tuberculose est une bactérie. Hein, c'est causé par une bactérie, pas par un virus. Et la tuberculose se heurte au problème que l'on rencontre avec toutes les infections bactériennes. C'est que la plupart des bactéries, on trouve, en tout cas chez la plupart des bactéries, des souches qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Alors bon, on peut beaucoup discuter sur les raisons qui ont fait que ces souches sont apparues. La résurgence de la tuberculose est essentiellement due à ça, à l'apparition de souches résistantes, et probablement au fait aussi que même dans nos sociétés, il y a une certaine précarisation qui va faire qu'une partie de la population va se retrouver avec des conditions, disons, générales de santé qui sont moins favorables que ce qu'elles étaient probablement il y a 20 ou 30 ans. Et probablement que la conjonction de ces deux choses-là peut expliquer la résurgence. Mais actuellement, on a des problèmes avec toutes les infections bactériennes, dont l'illustration la plus évidente sont les maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Parce que dans les hôpitaux, qui sont l'endroit par excellence où on traite, c'est aussi l'endroit par excellence où on développe les souches qui vont devenir résistantes aux antibiotiques. Et là, pour le moment, on a un très très grave problème, qui est d'autant plus grave que l'industrie pharmaceutique s'est totalement désengagée de la recherche sur les antibiotiques, en grande partie parce que ce sont des molécules qui sont peu rentables, qui demandent un gros investissement de recherche, et puis qui sont tellement efficaces que ça soigne très vite. Donc il vaut mieux s'intéresser à un traitement pour le cœur que les gens vont prendre à vie qu'à un antibiotique qu'ils vont prendre pendant une semaine.
Bien.
Alors...
Vous êtes sûr?
On en était là, hein? Ah oui, d'accord.
Oui.
D'accord, non, on va commencer par celle-ci. Quand même.
D'accord.
Donc, oui, là, effectivement, on a présenté un aspect quand même extrêmement négatif des virus, oui. Mais pas totalement usurpé d'ailleurs. Mais il y a des lueurs d'espoir dans la mesure où on peut tout de même faire des choses un petit peu plus sympathiques, et voire plus sympathiques, on peut le dire, avec ces virus. Alors, dans les utilisations possibles, j'ai listé justement ce dont je vous ai parlé là, il y a un instant, c'est-à-dire les armes biologiques et la variole. C'est vraiment, par excellence, le virus qui a été, qui a été pensé, en tout cas, ça n'a jamais heureusement été utilisé, mais qui a été pensé en ce sens, à une époque où on était totalement incapable de les manipuler. Actuellement, avec les techniques que nous avons, nous sommes parfaitement capables de rendre encore beaucoup, 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 beaucoup plus dangereuses les souches naturelles qui étaient envisagées à l'époque. On peut parfaitement s'imaginer, avec les techniques de génie génétique que nous maîtrisons parfaitement, d'aller rentrer dans le génome de ce virus de la variole toutes sortes d'autres joyeusetés, par exemple des choses qui vont faire qu'on va non seulement infecter avec le virus, mais ce virus va coder une série de choses qui vont totalement démolir votre système immunitaire, de sorte que vous serez parfaitement démuni en face d'un virus pareillement modifié. Bon, actuellement, il semblerait que les gens aient un petit peu renoncé quand même. Enfin, j'espère qu'ils ont un peu renoncé à ce
genre. On avait dit positif, Bernard. On avait dit positif.
Soyons positifs.
Positif, s'il vous plaît.
Soyons positifs. Au niveau de la recherche, il y a quand même une utilisation, il y a plusieurs utilisations, et qui sont toutes qui tournent autour de l'utilisation des virus comme ce qu'on appelle des vecteurs. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la recherche, on s'intéresse évidemment au fonctionnement d'un certain nombre de gènes, enfin, je dirais presque de tous les gènes, et un des problèmes que nous avons consiste à parvenir à faire rentrer dans une cellule particulière un gène dont on veut étudier le fonctionnement ou l'effet. Et une des manières, il y a beaucoup de façons de faire rentrer de l'ADN ou un gène particulier dans une cellule, mais actuellement, la manière la plus efficace de faire cela consiste à utiliser des virus, et particulièrement des virus de type antivirus, donc dérivés en gros du VIH, ou de virus pareil, semblables au VIH. Et donc ça consiste tout simplement à isoler l'ADN de ces virus, à le modifier, à enlever un certain nombre de choses qui ne nous intéressent pas, et à remplacer la région du génome de l'information qui ne nous intéressait pas par le gène qui nous intéresse et que l'on veut faire exprimer dans les virus. Après, on s'arrange pour que le virus récupère, soit produit par des cellules, on peut isoler ce virus, et à ce moment-là, il suffit de le mélanger, de l'ajouter dans notre culture de cellules pour que ce virus aille injecter son ADN dans la cellule. Cet ADN, grâce à toute la machinerie du virus, va être internalisé, va se retrouver dans le noyau, va s'intégrer, et on va parvenir de cette manière à faire rentrer une copie d'un gène particulier dans le génome, donc des cellules qui nous intéressent. Alors ça, on fait les gens qui font ça, ils font ça quasiment tous les jours au niveau expérimental, mais il y a actuellement des essais, qui sont même plus que des essais, véritablement au niveau médical, et on utilise donc ce type de vecteurs maintenant pour faire ce que l'on appelle de la thérapie génique. Alors, un des exemples, et il faut quand même le dire, c'est la première grande expérience, et surtout la première qui a marché de thérapie génique en France, dans le monde, a été faite en France par l'équipe d'Alain Fischer à l'hôpital Necker, et cette équipe s'est intéressée à des cas de déficit immunitaire grave qui faisaient que les enfants qui étaient atteints de ce déficit n'avaient pas de système immunitaire, ou en tout cas leur système immunitaire n'était pas fonctionnel, de sorte que ces enfants étaient extrêmement fragiles. La moindre infection par n'importe quel microbe, même totalement anodin pour quelqu'un qui avait un système immunitaire correct, pouvait être fatale. Et ces enfants étaient donc obligés de vivre dans des atmosphères parfaitement stériles, et on les gardait donc dans des bulles parfaitement stériles. Et l'idée a consisté, parce que la situation le permettait, ce déficit, en fait, et ça c'est une chose extrêmement importante, ce déficit est provoqué par l'absence d'un seul gène. Donc, a priori, sur le papier, en tout cas sur le plan théorique, c'est évidemment beaucoup plus facile de corriger un défaut quand il y a un seul gène qui manque que quand il y en a 15. Et dans ces cas-là, on savait que le déficit était causé par l'absence, par la déficience d'un seul gène. Alors l'idée consiste tout simplement à prélever dans ce cas-ci, c'était précurseur de lymphocytes de cet enfant, parce que sinon on va se retrouver évidemment avec le même problème que dans les greffes. Il faut absolument que les cellules soient bien. On va pas rentrer dans trop de détails. Dans ce cas-ci, c'est moins grave. On prélève les précurseurs des lymphocytes de cet enfant et on va infecter ces lymphocytes avec un virus, pareil, dérivé d'un antivirus, mais dans lequel on aura, toujours par génie génétique, on aura introduit une copie du gène qui est déficient chez cet enfant. En infectant ces cellules avec ce virus, le virus va infecter les cellules, va injecter son dans ce cas-ci c'est de l'ARN, qui va être copié en ADN, qui va s'intégrer. On a un système de sélection pour prendre les cellules seulement celles qui ont intégré l'ADN en question. Et puis, ces cellules génétiquement modifiées qui ont récupéré un gène normal vont être réimplantées dans l'enfant. Et si tout se passe bien, ces cellules vont se développer, vont se multiplier, et on va restaurer de cette manière un système immunitaire parfaitement efficace chez cet enfant. Et donc là... Pardon ? Exactement, c'est exactement là. Il y a eu des problèmes, exactement. C'est parce que, encore une fois, quand je disais dans la diapositive précédente, c'est de la médecine qui est encore relativement expérimentale. On ne peut pas faire ça sur 20 000 enfants, pour le moment, en tout cas. On est obligé, chaque cas est un cas à part, et effectivement sur les 10 enfants traités, il y a eu 3 enfants qui ont développé des leucémies, parce que justement comme c'est un virus qui intègre son matériel génétique, ce qui s'est produit dans ce cas-là, c'est que chez 3 de ces enfants, ce matériel génétique est allé s'intégrer à un endroit tel que on a totalement modifié le cycle de multiplication de ces lymphocytes. Et ils ont développé effectivement des leucémies, qui ont pu être traitées, dans quasiment tous les cas, mais qui a posé un certain nombre de problèmes, évidemment, sur la technique. Ceci dit, c'est tout de même, même sur les 10, il y en a 7 qui n'ont pas eu d'autres problèmes, ce qui est tout de même, au niveau qualité de vie, un gros, gros succès. Et évidemment, cette équipe a totalement revu sa stratégie. Ils sont en train d'essayer de développer de nouvelles stratégies avec de nouveaux vecteurs, de manière à ne plus avoir ces problèmes, particulièrement en essayant de cibler beaucoup plus précisément l'endroit où le virus va aller intégrer son matériel génétique.
Les 10 cas que vous évoquez, Bernard, c'est sur quel laps de temps ? C'est assez récent, j'imagine ?
Oui, je pense qu'ils ont dû commencer vers 2000 ans.
Oui, donc c'est tout frais, hein, d'accord.
Oui, oui, mais oui. Et puis ce sont des expériences. Oui. Et le suivi dans le temps est évidemment relativement important. Alors, toujours au niveau expérimental, je suis au bout, oui. Toujours au niveau expérimental, on pourrait tout à fait imaginer, et avec les techniques de génie génétique dont je vous ai parlé, puisqu'on est maintenant capable de manipuler même des morceaux d'ADN extrêmement gros, comme le génome du virus dont je vous ai parlé tout à l'heure, le génome du virus Epstein-Barr, hein, dans cette souche-ci, le génome a seulement 172 000 paires de bases. Mais la plupart de ces gènes ne sont pas absolument indispensables à la réplication du virus. Et donc l'intérêt qu'on peut imaginer à l'utilisation de virus aussi gros, c'est que d'une part, on a de bonnes chances, comme il est tellement adapté à l'homme, on a quand même de bonnes chances qu'il ne pose pas trop de problèmes pathologiques. Et puis surtout, on peut enlever une très très grande partie du génome que l'on peut remplacer par une information codant pour des antigènes de la rage, de la variole, de la rubéole, de tout, à peu près tout ce qu'on veut, de sorte qu'on pourrait imaginer avec ce type de vecteur fabriquer un vaccin unique pour à peu près toutes les pathologies contre lesquelles on voudrait vacciner. Pour le moment, c'est encore relativement de la science-fiction, mais c'est une chose qui est en tout cas tout à fait envisageable. Dans les aspects tout à fait positifs, mais qui restent expérimentaux aussi, on peut utiliser certains virus, et particulièrement des tout petits virus qui s'appellent les picornavirus, dans le traitement de certaines tumeurs. Et dans ce cas-là, on va utiliser la propriété de ces virus particuliers à être d'une part cytolytiques, c'est-à-dire qu'ils vont tuer les cellules dans lesquelles ils se développent, mais surtout leur grand intérêt, c'est qu'ils ne se développent bien que dans les cellules qui se multiplient très rapidement, comme la plupart des cellules tumorales. Et donc là, on aurait éventuellement des possibilités d'avoir des traitements. Ça ne marchera pas dans toutes les tumeurs, ça ne marchera pas pour tout, mais ça peut être une voie thérapeutique intéressante dans le traitement de certaines tumeurs. Et enfin, pour terminer en tout cas de ma partie sur les virus biologiques, il y a cette application que je trouve par contre tout à fait extraordinaire, qui est malheureusement interdite en France, qui est pratiquement interdite partout dans le monde et qui ne marche que en, qui n'est faite actuellement que en Russie, et qui consiste à utiliser des virus contre les bactéries résistantes. Je vous ai parlé des maladies nosocomiales, qui sont donc essentiellement provoquées par des bactéries qui sont devenues résistantes à tous les antibiotiques dont on dispose. Et comme, comme quand on est au bout de la panoplie de, d'antibiotiques, eh bien c'est la bactérie qui gagne. Et un certain nombre de chercheurs russes, avec des moyens incroyablement limités, se sont dit, mais on pourrait peut-être utiliser des virus, parce que le monde, encore une fois, des virus est tellement large. Actuellement, on ne connaît pas d'organisme qui ne soit pas infecté par des virus, et c'est le cas aussi pour les bactéries. Et depuis longtemps, c'était parmi les premiers virus, et en tout cas certainement le premier virus qu'on a bien compris, qu'on a bien étudié, et ce qu'on appelle un bactériophage, c'est un virus qui est capable d'infecter une bactérie, et lorsqu'il va se multiplier dans la bactérie, il va tuer la bactérie, il va provoquer la lyse de la bactérie en libérant, en général, autour de 300 à 500 nouvelles particules virales. Et vous voyez ici, c'est la même photo que je vous présentais tout à l'heure, voilà une bactérie, et vous voyez, elle est couverte de ces petits virus, de ces bactériophages, qui sont tous en train de lui injecter leur ADN, ADN qui va commencer à être répliqué par la machinerie de la bactérie, et lorsque la bactérie va être amenée à faire des centaines de particules virales, elle va tout simplement se lyser et disparaître. Et donc l'idée, comme il y a tellement de virus différents et qu'il n'y a pas de bactéries actuellement qui n'aient pas ces virus spécifiques, l'idée c'est de se fabriquer une espèce de bibliothèque de ces bactériophages, d'identifier la bactérie qui est responsable de la maladie ou de la surinfection d'une plaie ou tout ce qu'on veut, de trouver le bactériophage correspondant et d'ajouter tout simplement le bactériophage dans la plaie ou en général c'est plutôt pour des lésions qui sont bien accessibles, et ces bactériophages, quand ça marche, vont aller totalement nettoyer la plaie en lysant toutes les bactéries qui se multipliaient dans cette plaie. Et donc ça c'est quand même, enfin je trouve, c'est une très jolie application pour terminer sur un aspect optimiste.
Bravo.
De l'utilisation des virus.
Bravo. Et je crois qu'on va évoquer l'aspect informatique des choses avec des virus qui eux aussi vont vers le positif, espérons.
Il est éliminé par votre système immunitaire qui le reconnaît comme un corps étranger. Et comme ce sont des virus qui ne sont pathogènes que pour la bactérie, ils sont totalement non pathogènes pour l'homme, et donc vous les éliminez sans problème.
Merci.
Parce que la lyse, là, ça va très vite. Hein. C'est en quelques heures.
Yves, informatique.
Parce que c'est pas du tout, pour le moment, c'est vraiment de la médecine, je dirais, sur mesure. Et ça marche pas dans tous les cas, d'abord. C'est pas une médecine facile à mettre en œuvre, parce que pour une personne, il faut quasiment tout un labo qui va être capable de déterminer très exactement quelle est la souche de bactéries, et puis d'avoir la collection de phages, et il faut tester sur la bactérie en question, il faut tester toute la collection de phages. Donc c'est vraiment un gros travail. C'est pas un truc qui peut se faire en routine Sur le plan bioéthique, personnellement, je ne verrais pas vraiment le problème.
Merci. L'informatique, Yves.
Oui, donc on a aussi des infections soi-disant utiles en informatique, mais je mets un point d'interrogation parce que je ne suis pas convaincu. Alors, historiquement, le premier verre informatique était utile. C'est-à-dire, les gens qui ont donné le mot verre, qui ont baptisé ça un verre, c'était les gens chez Xerox PARC à Palo Alto, qui avaient inventé auparavant le réseau Ethernet qui est utilisé dans beaucoup d'endroits. Je parle d'Ethernet, pas de Internet, il ne faut pas confondre. Donc, et c'est un réseau local.
La différence, oui.
C'est un réseau local, donc c'est un câble qui permet de connecter beaucoup d'ordinateurs entre eux. Et généralement, la liaison, par exemple, de vos boîtiers ADSL sur votre ordinateur, c'est souvent une liaison Ethernet. Donc ce type de réseau-là avait été inventé dans les années 70 chez Xerox PARC. Et en fond, ils avaient beaucoup de machines, des petites machines, des stations de travail, qui étaient connectées sur ce réseau, et que ces machines, elles ne faisaient pas grand-chose. Et les gens qui ont inventé le verre se sont dit, pendant que ces machines ne font rien, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur sur la machine, comment on pourrait utiliser ces machines à faire des choses utiles? Et donc, ils ont inventé cette notion de verre qui consistait à programmer des fonctions compliquées, comme des calculs très compliqués ou des tracés d'images synthétiques très compliqués à l'époque, en utilisant le temps disponible sur des machines connectées au réseau. Donc les machines qui ne faisaient rien, il n'y avait pas d'utilisateur à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est de découper ces programmes très compliqués en petits morceaux, de les envoyer sur les machines qui ne faisaient rien. Dès que la machine redevenait active parce qu'un utilisateur tapait son login, son mot de passe, eh bien le VER disparaissait. Il avait fini son travail et il envoyait ses résultats sur un site central et c'est tout. Donc c'était la vision du VER. Alors pourquoi ils avaient appelé ça le VER? C'est parce qu'il y avait eu un roman de science-fiction, On the Shockwave Rider, qui s'est traduit en français sur l'onde de choc, qui était plutôt le cavalier de l'onde de choc, qui avait cette notion où le monde était dirigé par une oligarchie qui utilisait le pouvoir des ordinateurs reliés en réseau pour contrôler toutes les informations sur tout le monde, une espèce de super Big Brother. Et un groupe de résistants a voulu développer un programme qui tuerait ce réseau d'ordinateurs tout puissant et avait développé cette idée qu'un VER. Là, ils avaient utilisé plutôt la notion du ver solitaire avec ses anneaux. C'était comme ça dans le roman de science-fiction, en tout cas, le tapeworm, le ver solitaire, avec chacun de ses anneaux. Chacun de ses anneaux pouvait être un petit œuf, porter des œufs dans une machine, et on ne pourrait pas le tuer parce qu'il se reproduirait, il se repropagerait sur d'autres machines tellement vite que ce ver tuerait tous les programmes de contrôle du monde, et lui, il resterait survivant à tout. Donc c'était l'idée du roman de science-fiction, et cette idée, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça un ver dans le chez Xerox PARC. Donc un ver utile, utiliser les machines qui ne font rien. Il y a toujours des techniques comme ça, hein. Il y a le projet SETI, mais il y a d'autres projets qui existent sur Internet. Vous pouvez vous y abonner pour que votre machine, quand vous ne l'utilisez pas, serve à quelque chose.
SETI, on peut dire peut-être ce que
alors,
c'est.
SETI, c'est un projet, bon, c'est le plus ancien et le plus connu. Mmh. C'est un projet qui sert à analyser les ondes qui sont émises, qui sont reçues sur les télescopes, les radiotélescopes mondiaux, et qu'on ne sait pas si c'est des ondes naturelles ou bien des messages qui auraient été émis par des extraterrestres il y a déjà des milliers d'années, mais le temps que ça se propage, ça a pu arriver chez nous très tard. Donc c'est pour analyser ces ondes, pour le moment, qui ont l'air un peu aléatoires si elles sont naturelles, mais qui ont peut-être portent peut-être de l'information intéressante. Et il y a un programme comme ça, qui est le programme SETI, qui sert à analyser ces ondes en utilisant des ordinateurs qui sont inutiles en temps normal. Donc ils sont exactement la même idée qu'avaient les gens de Xerox au départ. Bon, c'est anecdotique parce que aujourd'hui, donc les vers sont plutôt méchants. Et les premiers virus étaient aussi conçus peut-être pour être utiles, au moins dans la tête de leurs concepteurs. Mais là, j'ai déjà des points d'interrogation. Le plus ancien dans la littérature, c'est le ver Creeper, qui en fait a été développé par les premiers qui utilisaient quelque chose qui ressemblait au début d'Internet. C'était le réseau DARPA, DARPANET. Qui était encore en balbutiement en 70, dans le début des années 70, et ils ont lancé un virus qui, en fait, faisait que afficher sur un terminal, je suis là, je suis Creeper, et essayait donc de m'attraper. Il se propageait, à peine était-il exécuté quelque part, il allait sur une autre machine, s'exécuter, puis se détruire, se tuer, puis se propager sur une autre machine, etc. Donc, en fait, il ne faisait rien de mal, sinon d'afficher ça partout. Le seul problème, c'est qu'ils ne savaient plus l'arrêter. Et donc, les mêmes, peut-être, auteurs ou d'autres auteurs ont développé un autre virus utile, le Reaper, pour tuer le premier. Et donc, ils n'avaient pour rôle que d'essayer de tuer toutes les copies qu'ils pouvaient trouver du premier. Donc, c'est
le premier jeu... Pac-Man, non, c'est ça? Comment? C'était le premier Pac-Man.
Un peu, ouais, ça ressemblait à ça. Et son rôle était que d'effacer le virus précédent. Bon, c'est anecdotique et j'ai pas tous les détails techniques. Il y a des choses qui sont pas très claires. Est-ce que c'était un ver? Est-ce que c'était un virus? J'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est la première expérience dans le monde réel de ce genre de phénomène sur les réseaux. Fred Cohen a passé sa thèse sur ce sujet-là et c'est lui qui a inventé le mot virus pour les systèmes informatiques. Et lui, son problème, c'était pas ça, c'était de casser les systèmes de sécurité des ordinateurs les plus sophistiqués, les mieux protégés du monde à l'époque, des ordinateurs militaires, avec plusieurs niveaux de sécurité, du très secret au secret confidentiel et non classifié. Et il a voulu montrer qu'en fait, même par principe, ce genre d'ordinateur était fragile à certaines attaques, comme les virus, c'est-à-dire des morceaux de code de programme qui appartiendraient à des programmes légitimes et qui seraient exécutés par des utilisateurs légitimes. Comme c'est des utilisateurs légitimes, ils ont parfaitement le droit de lire les documents secrets, très secrets ou autres, et puis le petit bout de programme qui se rajoute dedans, il pourrait en faire une propagation, le cacher, l'information, et le transmettre au KGB ou ailleurs. Donc c'était une preuve de faille de sécurité. C'est comme ça qu'il a conçu le terme virus et qu'il a développé ce principe-là. Mais il y en avait déjà dans la nature bien avant. Alors un autre exemple que j'aime bien aussi, c'est le virus Brain, qui était un des virus sur PC, un des premiers virus qui a vraiment contaminé une très grande proportion des PC dans le monde au milieu des années 80, en 86. Et là, c'était vraiment un virus utile, entre guillemets, parce que c'était développé par des gens qui vendaient des logiciels piratés. Ils fabriquaient des copies, des disquettes pirates de logiciels comme Word, les premières versions qui existaient, ou de MS-DOS, etc., de tous les logiciels qu'ils pouvaient, et ils les vendaient comme des disquettes, de vrais programmes. Et tout le monde savait que c'était des programmes piratés. C'était au Pakistan, des Pakistanais qui faisaient ça. Mais eux, pour suivre les gens, leurs clients, qui faisaient éventuellement des copies de ces programmes et qui les revendaient derrière, ils voulaient savoir s'ils faisaient ça. Et pour ça, ils avaient installé un virus dans leur disquette. Et chaque fois qu'on qu'on insérait une disquette dans un système où il y avait cette protection-là, entre guillemets, eh bien, il se réécrivait lui-même. Donc le virus était là pour suivre la trace des copies pirates de logiciels qu'ils avaient développés. Ce que je trouve quand même assez utile, mais utile pour des pirates. Donc c'est assez, assez amusant historiquement. Alors, il y a eu des idées comme de lancer un ver correcteur. Alors j'ai fait le jeu de mots sur le ver correcteur, bien sûr, pour ouais. Supprimer les vulnérabilités qui permettent de se propager lui-même. Et donc il y a effectivement des vers dits de protection, comme ceux que je cite là, qui ont été développés pour corriger des vulnérabilités dans les OS qui étaient maintenues. À nouveau, dans la plupart des cas, je l'ai à peine dit, mais dans Windows, par exemple, chez Microsoft, tous les deuxièmes mardis du mois, ils publient une liste de correctifs qui sont mis automatiquement à jour sur votre système. Si vous êtes abonné, votre système Windows se met à jour automatiquement pour corriger des vulnérabilités qui ont été trouvées dans le mois précédent ou dans les semaines précédentes. Et le lendemain, le mercredi, il y a plein d'attaques sur le réseau sur les vulnérabilités qui ont été corrigées. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas corrigé encore sa machine. Les pirates ont analysé les correctifs envoyés par Microsoft et retrouvent quelles sont les failles de sécurité qui sont corrigées. Tant qu'ils n'ont pas été corrigés par tout le monde, ils peuvent les utiliser. Et donc, ils créent des vers dès le lendemain pour attaquer toutes les machines qui n'ont pas encore été prêtes. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça que marchent les vers. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cas où c'est visible, où les pirates n'ont pas découvert la vulnérabilité par eux-mêmes. Ils ont découvert la vulnérabilité qui a été corrigée par Microsoft, qui avait déjà découvert la vulnérabilité avant eux, ou dont les clients avaient trouvé la vulnérabilité avant eux. Donc, la science importante, l'idée géniale, c'est de trouver la vulnérabilité. C'est généralement pas les pirates, les créateurs de vers qui le font. C'est les correcteurs ou les clients honnêtes de Microsoft qui disent « Tiens, il y a un bug dans votre truc, vous devez le corriger. » Donc tout ça pour dire que, en fait, il y a eu des vers comme ça pour corriger des vulnérabilités exploitées par d'autres vers en refaisant les patchs que faisait Microsoft. Certains faisaient même le téléchargement depuis Microsoft des correctifs de ces vers. Alors ça serait bien sur le principe. Sauf que, on ne sait jamais, quelque chose qui se fait automatiquement sur ma machine, je ne suis pas sûr que ça ne fait pas plein de choses pas du tout autorisées par derrière. Et donc, en général, les mécanismes automatiques de protection, comme ces vers-là, ont toujours été détournés à un moment ou à un autre par les attaquants. Alors, à nouveau, si j'ai le temps de présenter quelques anecdotes, il y a eu le cas fameux des CD Sony. Sony, en 2005, a sorti une nouvelle protection contre le piratage de CD de musique. Et c'était un programme qui était sur la disquette, sur le CD de musique de chez Sony. Si on mettait ce CD dans un PC, ça téléchargeait depuis le CD un programme de rootkit, c'est-à-dire qui prenait le contrôle de l'ordinateur, le contrôle de l'OS de l'ordinateur. Le rôle de ce rootkit, c'était chaque fois que ce CD ou un CD comme ça était inséré dans un PC, d'envoyer un message à Sony pour dire telle machine avec tel numéro IP est en train de lire tel CD. Donc c'était un logiciel espion. Mais un logiciel espion qui prenait le contrôle de la machine. Eh bien, ce logiciel espion a été lui-même utilisé par des pirates à distance pour charger des logiciels tout aussi malveillants et qui profitaient de ce logiciel mal conçu par Sony pour pénétrer dans les machines et s'exécuter en plus puissant que l'operating system de base du système, puisque c'est ce que faisait déjà ce rootkit. Donc, le logiciel de Sony, qui de toute façon était scandaleux, puisqu'il prenait le contrôle de votre machine à votre insu, sans vous le dire, c'était déjà du piratage, soi-disant pour lutter contre le piratage de musique. Et en plus, il était tellement mal écrit qu'il était vulnérable à des attaques qui ont eu lieu derrière, et Sony a eu beaucoup de mal à effacer son logiciel pirate, à déverminer, désinfecter les machines qu'il avait infectées. Ça a été très difficile et très compliqué, et ça coûtait très cher à Sony. Je crois qu'ils ne recommenceront plus jamais. Symantec, c'est un marchand d'antivirus, excusez-moi du lapsus, un marchand d'antivirus qui, comme je l'ai dit, se met à jour automatiquement lorsqu'on est connecté sur Internet et qu'on a mis en place la mise à jour automatique. Eh bien, ce système de mise à jour automatique avait un bug qui a été exploité par des attaquants pour lancer des virus, des vers sur les machines. Donc, qui exploitait la mise à jour automatique de Symantec. ISS, c'est une société qui était spécialisée, ça a été racheté par IBM, qui était spécialisée dans les firewalls et dans les outils de détection d'intrusion. C'était la meilleure société à l'époque dans le domaine. Eh bien, il y a eu un ver qui a attaqué spécifiquement ces logiciels-là. Donc les logiciels de pare-feu et les logiciels de détection d'intrusion. Ils ne faisaient qu'attaquer ces systèmes-là. Et c'était quand même particulièrement vicieux et assez difficile. C'était quand même un exploit parce que ces logiciels-là, normalement, ne font qu'observer le réseau. Eh bien, la seule observation suffisait pour les infecter en leur envoyant des signaux particuliers. Donc c'était assez amusant. Un autre exploit technique, c'est qu'en fait ça n'utilisait pas des connexions TCP/IP comme la plupart des autres vers, mais UDP. Donc un seul message, un seul paquet était suffisant pour propager ce vers. Et cette technique de propagation très rapide, très simple, par des petites attaques très courtes, on considère aujourd'hui que pour infecter 90% des machines vulnérables sur Internet, on pourrait le faire en quelques secondes. Certains disent même en une demi-seconde avec des attaques de ce type-là. Ce qu'on appelle les flashworms, des vers ultra rapides permettant d'attaquer 90% des machines vulnérables.
On avait dit positif aussi, Yves.
Oui, je suis très gêné parce que moi, je ne réussis pas à être vraiment positif jusqu'au bout. Microsoft, alors là, donc c'est bien connu, j'ai déjà dit, et c'est normal, c'est eux qui ont 90% du marché, donc ils ont aussi beaucoup plus que 90% des attaques. Microsoft a un système de protection interne, LDASS, qui est un système de sécurité. Eh bien, ce système avait une faille qui a été utilisée par des vers pour pénétrer dans les systèmes Microsoft. Donc, même eux, ils ne sont pas du tout à l'abri, même dans leur système de sécurité, de ce genre d'attaque. Enfin, ce qui est aussi... Alors, je ne sais pas si c'est positif ou pas. Il y a pas mal d'attaquants qui, lorsqu'ils prennent le contrôle d'une machine, la première chose qu'ils font, c'est de la soigner. C'est de corriger toutes les failles qu'ils trouvent pour empêcher les autres de prendre le contrôle de la machine. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les attaquants ne font plus ça pour le prestige, pour la fierté d'avoir fait une attaque et d'avoir réussi. Ils le font pour gagner des sous. Gagner des sous comment ? Gagner de l'argent en faisant du spam, c'est-à-dire en faisant de la publicité, en inondant les boîtes aux lettres pour que vous achetiez du Viagra ou je sais pas quelle chose sur Internet. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais il y en a quand même sur des millions de messages, de temps en temps, un qui va se laisser prendre et acheter. Eh bien, ça suffit pour qu'on soit noyé dans le spam aujourd'hui. Donc le spam est une façon de faire. Les logiciels espions qui vont essayer de capter des numéros de carte de crédit, tous ces logiciels-là peuvent être lancés en prenant le contrôle de machines à distance. Et c'est aujourd'hui les attaquants, les vers, les virus qu'on voit, sont pour prendre le contrôle de machines à distance, laisser le plus possible cacher l'existence. Hein. Les vers essayent de ne pas faire trop d'activité, mais de fouiller quand même dans votre machine pour essayer de trouver des numéros de carte de crédit ou des mots de passe qu'ils vont après utiliser pour soit lancer des grandes quantités de messages, de faire du spam ailleurs, soit directement d'essayer de piéger dans votre compte en banque ou de choses comme ça, une fois de temps en temps, ou de faire des achats avec votre carte de crédit à votre place à vous. Donc ça, c'est la technique aujourd'hui qui gagne de l'argent. Hein. C'est comme ça, pour ça que les gens le font. Donc ils essayent de prendre le contrôle de plus de machines de possible dans le monde et d'empêcher les autres de prendre contrôle. Donc la première chose qu'ils font, c'est d'essayer de corriger les failles de sécurité des machines qu'ils contrôlent. Et donc on a des vers, là j'ai deux exemples de Netsky et Sasser, qui essayent de boucher les trous, non seulement qu'eux ont exploité, et ils ouvrent d'autres portes dérobées, hein, mais ils bouchent les trous, les vulnérabilités qu'eux ont détectées, mais aussi d'autres vulnérabilités qu'ils détectent sur la machine, pour empêcher que d'autres vers deviennent actifs ou prennent le contrôle de la machine. Donc on a ce phénomène où c'est les attaquants qui protègent les machines qu'ils ont réussi à attaquer. Ce qui est quand même un comble. Bon, c'est bien. Là que je m'arrête.
D'accord, merci. Merci Yves Desvart. Merci pour votre attention. Merci à Bernard Mariamé, Yves Desvart pour vos démonstrations, vos explications. La prochaine conférence de la médiathèque José Cabanis aura lieu le jeudi 3 septembre à 18h. Le thème n'est pas encore déterminé, mais voilà, je vous invite à y participer jeudi 3 septembre. Voilà, merci à tous.